Europe Midi, Rémi Bostzaron.
Bonjour, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
Notre enjeu, c'est de vacciner progressivement par classe d'âge le plus rapidement possible. Il faut vacciner matin, midi, soir, samedi, dimanche, jour férié.
La vaccination sera ouverte aux plus de 55 ans, tous les plus de 55 ans, dès demain en France, annonce ce matin d'Olivier Véran, confirmé sur notre antenne par Agnès Pannier-Runacher. Nous ferons un point sur le calendrier de cette campagne et nous nous interrogeons également sur l'allongement du délai entre la première et la deuxième dose annoncée par le ministre de la Santé. Est-ce vraiment sans risque? La réponse de l'infectiologue Benjamin Davidot, avec qui nous évoquerons également la possible vaccination des enfants à laquelle réfléchit le gouvernement. Et si la France et le reste du monde d'ailleurs mise tant d'espoir sur la vaccination, c'est qu'elle est sans doute l'une des clés de la reprise du tourisme. L'été est déjà dans toutes les têtes, nous dira Richard Venopoulos, président du réseau d'agences de voyage Tourcom. Dans ce journal également, la suppression de certaines lignes aériennes intérieures en France, entérinée par l'Assemblée nationale. Le deuxième tour de la prochaine élection présidentielle qui devrait ressembler très fortement à celui de 2017 selon l'IFOP. Le classement des villes et villages où l'on vit le mieux en France, la Haute-Savoie et la Moselle récompensés. Et puis le rugby et les quarts de finale de Coupe d'Europe 100% français cet après-midi. Ensuite, à 12h45 à peu près, je recevrai Anastasia Chapochkina, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de la Russie. Nous parlerons du président Vladimir Poutine, autorisé désormais à briguer 2 mandats supplémentaires. Et nous tenterons de comprendre les ressorts et les limites de cette domination apparemment sans faille. Enfin, la météo, et c'est un temps idéal pour se confiner, hein, de la pluie et des températures en baisse, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La vaccination va donc être ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans dès demain en France. Annonce faite par le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans le journal du dimanche ce matin. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Cette décision du gouvernement doit évidemment permettre d'accélérer la campagne de vaccination.
Oui, ça représente quasiment 4 millions de personnes en plus. Quel que soit leur état de santé, ces personnes auront le droit au vaccin AstraZeneca ou à celui de Johnson & Johnson, ce petit nouveau qui arrive en France avec une semaine d'avance. D'après Olivier Véran, nous allons recevoir 200 000 doses de ce nouveau produit à partir de demain. Ensuite, dès vendredi prochain, tous les plus de 60 ans auront accès aux vaccins Pfizer et Moderna. Ils sont réservés en ce moment seulement aux plus de 70 ans et aux 55-59 ans qui risquent des formes graves de la maladie. L'objectif, c'est toujours d'atteindre le cap des 20 millions de Français vaccinés d'ici le 15 mai, 30 millions d'ici le 15 juin. Alors pour y arriver, l'exécutif a choisi de s'inspirer de la méthode britannique. On espace les injections de doses de vaccins. Donc à partir de mercredi prochain, il faudra attendre 42 jours au lieu de 28 pour recevoir sa deuxième dose. Cet ajustement devrait permettre aux autorités de santé de gagner 1 800 000 injections d'ici la deuxième quinzaine de mai.
Merci pour ces explications, Diane Berger. Et bonjour, Benjamin Davidot.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Diane Berger vient d'évoquer cet allongement du délai entre les deux doses de vaccin annoncées ce matin par Olivier Véran. Le rappel se fera à 42 jours et non 28 aujourd'hui. Ça peut surprendre de voir qu'on peut soudainement s'autoriser ce délai beaucoup plus long. Est-ce que ça veut dire qu'on est absolument certain désormais que ça ne présente aucun risque?
Alors, il y a deux choses. D'abord, cette question, finalement, elle s'était déjà posée à la fin du mois de janvier et l'OMS avait donné son accord en expliquant que si la tension se faisait sentir avec une certaine pénurie sur les stocks et surtout une aggravation de l'épidémie, il fallait bien évidemment décaler à 42 jours ces rappels. La réalité aujourd'hui, c'est que les éléments scientifiques montrent qu'après 15 jours, après une première injection, on est globalement couvert et qu'il n'y a pas tout d'un coup les montagnes russes, une perte de l'immunité qui se ferait soudainement. Et l'exemple britannique nous montre qu'on ne prend pas de risque en faisant ça et qu'on va substantiellement augmenter la vaccination, mais il faut rester prudent parce que avant de faire la deuxième dose, il faut-il encore avoir eu la première. Et c'est aujourd'hui tout le combat qu'il faut mener pour très clairement se sortir de cette épidémie.
Naturellement. Alors l'une des questions qui se posent également autour de cette campagne vaccinale, c'est la vaccination des enfants. Alors, je vais vous faire écouter ce que disait ce matin sur notre antenne la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, invitée du Grand Rendez-vous. Elle le confirme, hein, c'est une piste explorée par le gouvernement.
C'est un scénario qui est effectivement regardé. Il est tout à fait sur la table. D'abord, il faut des vaccins pour les enfants. Ces vaccins, aujourd'hui, ne sont pas disponibles puisqu'ils font l'objet d'essais cliniques particuliers et de validations particulières. Tous les vaccins qui ont déposé une autorisation de mise sur le marché, qui l'ont obtenue, sont en train de regarder s'ils vont ouvrir des propositions pour les enfants. C'est le cas de Pfizer, BioNTech, c'est le cas également de Moderna. Des enfants dans une même classe, quand bien même leur professeur serait vacciné, pourraient contaminer les familles des uns et des autres. Et c'est pour ça que dans la stratégie de vaccination, nous privilégions aujourd'hui la vaccination des plus vulnérables. Oui. Les enfants ne font pas des formes graves. L'enjeu, c'est de faire en sorte que leurs grands-parents n'attrapent pas le virus et donc de faire en sorte qu'ils sont vaccinés.
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, ce matin sur notre antenne. Benjamin Davidot, cette vaccination des enfants, on le comprend, elle est sur. C'est un dossier qui est sur la table du gouvernement. Pas pour tout de suite, mais est-ce que ça pourrait être une clé de cette campagne vaccinale ?
Je pense que c'est la clé de la réussite de la vaccination avec un grand V. Pourquoi ? D'abord, c'est ce dont quoi tendent les Israéliens aujourd'hui avec un rajeunissement de la campagne vaccinale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fameuses chaînes de transmission, si on veut les casser, il faut couper la chaîne de bout en bout avec une tenaille. Et cette tenaille, c'est la vaccination parce que le réservoir se fait chez les plus jeunes. Et plus on est jeune, plus on est asymptomatique. Et donc, plus on va échapper au testing parce qu'on ne se sait pas malade. Et que c'est le propre de la vaccination. Quand vous êtes vacciné, maintenant, on vaccine dès le plus jeune âge les enfants à la naissance. Contre les maladies transmissibles comme la rougeole, etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire avec la Covid si on veut s'en sortir durablement.
À condition évidemment d'avoir des vaccins destinés à ces enfants, ce qui est en question encore aujourd'hui, comme le disait Agnès Pannier-Runacher. Alors évidemment, les Français, et pas seulement le gouvernement, misent beaucoup sur cette campagne de vaccination pour retrouver un semblant de vie normale, peut-être même une vie normale. Mais est-ce qu'on peut se permettre de tout miser sur la vaccination comme le font également en ce moment les États-Unis ?
Écoutez, en tout cas, si la question c'est qu'est-ce qu'on, je pense, de la politique zéro Covid, je pense que c'est une politique auquel il est extrêmement difficile d'arriver dans des pays occidentaux, et parce que l'exemple typiquement qu'on prend des maladies comme la rougeole, comme ce que j'expliquais, ou comme le pneumocoque pour laquelle on a des vaccins, on voit bien qu'on ne peut pas annihiler totalement la circulation des virus, et donc il faut accepter qu'il y a une circulation du virus qui est là, et c'est pour ça qu'il faut se protéger avec la vaccination.
Se protéger et continuer à respecter ces gestes barrières, le max, etc. Ce n'est pas une solution miracle.
Non, bien sûr que non. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, le vrai point d'interrogation aujourd'hui, c'est combien de pourcents de la population faudra-t-il vacciner pour atteindre cette immunité collective. Aujourd'hui, on est plus proche de 80, voire 90% de la population avec ces mutants. Et la vraie problématique, encore une fois, c'est qu'il faut qu'on arrive à pouvoir convaincre l'ensemble des Français, et plus largement que les Français, c'est le monde entier qui doit être vacciné pour qu'on reprenne notre vie d'avant avec les voyages et tout ce qui va avec.
Merci Benjamin Davidot, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Après cette annonce donc ce matin par Olivier Véran de l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans à partir de demain. Et vous parliez de l'influence que pourrait avoir cette campagne de vaccination en France, mais également au niveau mondial sur les voyages. Justement, le gouvernement mise sur cette vaccination pour la relance de l'économie touristique. Notamment, concrètement, on se demande quand les Français pourront recommencer à voyager. Richard Venopoulos est le président du réseau d'agences de voyage Tour. Et pour lui, c'est clair, il n'y a aucun espoir à avoir pour le printemps, mais ça pourrait repartir dès cet été.
Pour l'été, oui, on risque d'avoir pas mal de départs. Il y a plusieurs pays d'Europe comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, mais certainement Malte qui s'ouvrent. Les États-Unis vont certainement s'ouvrir, surtout pour la fête du 4 juillet. Et là, je pense que les Français et quelques autres pays vont être dans l'obligation d'ouvrir les frontières. Donc je pense que l'été sera certainement meilleur que l'été dernier. Mais la reprise, une bonne reprise, sera certainement comptée à partir de septembre, octobre, novembre, parce que là, les vaccinations auront eu lieu en plus grand nombre. Et certainement, décembre, les fêtes de Noël et les jours de l'an, là, on aura vraiment une vraie reprise. Et là, on pense à un démarrage en flèche. Ça ira très, très vite parce que beaucoup, beaucoup de personnes veulent s'évader, veulent partir. Et là, les agents de voyage auront intérêt à être outillés pour les accueillir.
Richard Venopoulos, président du réseau d'agences de voyage Tourcom. Alors, pour partir en voyage, évidemment, il faut des avions et des lignes intérieures. Par exemple, en France, certaines lignes vont disparaître. Ça concerne Bordeaux et Nantes, notamment. Décision entérinée dans le cadre de la loi climat par l'Assemblée nationale hier. Mais ce sont des mesures à minima, Carole Ferry.
Eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura plus de vols entre Paris-Orly et Nantes, Lyon ou Bordeaux. Il y aura toutefois des exceptions au départ de Roissy pour les correspondances. Quand nous pourrons à nouveau voyager, si vous décidez par exemple de partir en Thaïlande depuis Lyon, eh bien vous pourrez toujours prendre l'avion depuis Lyon pour récupérer votre vol à Paris. C'est au final une mesure à minima qui a été votée. Pour qu'il y ait un véritable impact sur les émissions de CO2, la Convention citoyenne pour le climat réclamait la suppression de tous les vols ayant une alternative en train de moins de 4 heures. Deux arguments s'y sont opposés. Le risque sur l'emploi chez Air France, alors que la compagnie est déjà frappée de plein fouet par l'épidémie de Covid. Et le risque pour certains territoires de se retrouver complètement enclavés. Ce vote entérine finalement ce qui avait déjà été négocié entre Air France et le gouvernement. L'État avait en effet conditionné ses aides financières à la suppression de ses vols intérieurs. Le décret devra encore préciser si d'autres lignes sont susceptibles d'être concernées, comme Paris-Rennes ou Lyon-Marseille.
Les explications de Carole Ferry.
Europe Midi. Rémi Bossaro.
Nous sommes à un an de la prochaine élection présidentielle et l'on connaît depuis quelques minutes le nom d'un nouveau candidat officiel. Fabien Roussel a été investi par le Parti communiste. Mais pas de quoi sans doute bouleverser le scénario qui semble déjà se dessiner selon un sondage IFOP pour le JDD. Jean-Rémi Baudeau, le duel de 2017 semble devoir se répéter.
Oui, quel que soit le candidat à droite, quel que soit le candidat à gauche, ce sondage montre qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifieraient systématiquement pour le second tour. Dans la plupart des configurations, ils sont d'ailleurs loin devant, au coude à coude. Mais le duel est pour l'heure sans surprise. Emmanuel Macron l'emportera avec 54% des voix. Ce sondage offre un aperçu des forces à droite. Xavier Bertrand plafonne à 16%, mais c'est largement plus que Valérie Pécresse, 11%, Laurent Wauquiez, 7%, ou encore Bruno Retailleau, qui ne dépasse pas les 6%. À gauche, l'enseignement principal, c'est que le meilleur prétendant reste Jean-Luc Mélenchon, mais il ne vogue qu'entre 10 et 13%, signe d'une très forte dispersion à gauche. Enfin, puisqu'un sondage est l'occasion de faire des hypothèses improbables au second tour, sachez que Marine Le Pen perdrait face au candidat de droite, mais pas face au candidat de gauche. Si elle affiche un 50-50 avec Anne Hidalgo, elle l'emportera avec 53% des voix face à Yannick Jadot, et même 60% des voix face à Jean-Luc Mélenchon. Un cas où c'est surtout l'abstention qui permettrait à Marine Le Pen de décrocher l'Élysée.
Merci pour ces éclaircissements, Jean-Rémi Baudeau du service politique d'Europe 1. Vous ne connaissez peut-être pas le village de Peltre en Moselle. Eh bien, sachez que c'est à quelques minutes en voiture de Metz. Et surtout qu'il s'agit du village où l'on vit le mieux en France, selon le classement paru aujourd'hui, là encore dans le JDD. Du côté des villes de plus de 2000 habitants, Annecy, Bayonne et Angers sont en tête. Mais sur quels critères exactement? La réponse de Thierry Saucé, président de l'association des villes et villages où il fait bon vivre.
Le secret, c'est de pouvoir offrir et la qualité de la vie et la proximité des services publics, ou alors d'être un village pas trop loin d'une ville à la campagne, et en même temps on n'est pas trop loin de la maternité, de l'hôpital ou des commerces. La deuxième chose évidemment frappante, c'est que le recul des grandes métropoles. Saint-Étienne est 20e alors que Lyon est 56e, et Courbevoie en Ile-de-France est 31e alors que Paris est 55e. Quand on a rentré les 183 critères de l'INSEE sur les transports, la santé, l'éducation, la solidarité, on s'est dit, tiens, il faut rajouter le haut débit. Et c'est vrai que ça a modifié un peu les résultats. Vous faites monter du coup beaucoup Ajaccio, Toulon, Châteauroux, Brest, Rennes, Pau, Metz, Asnières, Rueil-Malmaison, parce que c'est devenu un critère tout à fait essentiel avec la crise.
Thierry Saucé, président de l'association des villes et villages où il fait bon vivre. Il était ce matin l'invité de Pierre Devineau. Le sport et d'abord le rugby. La France est passée à côté de la victoire dans le tournoi des destinations, mais c'est peut-être en Coupe d'Europe que les Français pourraient triompher après la qualification de La Rochelle hier. Il y aura quatre clubs français même en demi-finale, en quart de finale cet après-midi. Duel hexagonal entre Bordeaux, Bègles et le Racing 92 à 13h30 et puis entre Clermont et Toulouse à 16h, les Toulousains qui refusent l'étiquette de favoris dans ce quart de finale à l'image de leur entraîneur Hugo Mola.
Le premier élément, on n'a pas gagné à Clermont-Ferrand depuis 2002. Autant vous dire que ça fait presque 20 ans. La deuxième, c'est le nombre de quarts de finale gagnés à l'extérieur. En moyenne, 1 sur 4. Donc 25%. Quand vous n'avez pas gagné dans un endroit depuis 20 ans et que vous avez une chance sur 4, statistiquement, je veux bien endosser le rôle de qui que ce soit. Et je laisse d'ailleurs nos amis Clermontois avec ce rôle d'outsider qui leur va tellement bien. Mais je vous rappelle les faits depuis 2002. Non, mais dans l'histoire, c'est vrai que le Stade Toulousain a été 4 fois champion d'Europe, dont 3 finales contre les équipes françaises. C'est pas une finale, c'est un quart de finale.
Hugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain avant ce quart de finale de Coupe d'Europe face à Clermont, donc à 16h. Le football. Et après la démonstration du Paris Saint-Germain à Strasbourg, 4 buts à 1 hier, suite de la course effrénée au titre de champion de France aujourd'hui dans la 32e journée de Ligue 1, Monaco face à Dijon à 17h05 et Lyon face à Angers ce soir à 21h. Le sport, c'est aussi le monde qui change avec la Formule 1 électrique, ce qu'on appelle la Formule E, qui s'est installée installé dans le paysage avec ce week-end les Grands Prix qui se passent à Rome. Hier, c'est le Français Jean-Éric Vergne qui s'est imposé. Pendant ce temps, il y a tout se passé en fait dans une salle de contrôle secrète située en France pour surveiller les performances de son Grand Prix. Et c'est pour Europe 1, Axel May qui s'est glissé dans les coulisses de la Formule E.
Installés dans la salle de contrôle de Versailles-Satory, les ingénieurs écoutent à la radio les conversations codées de leurs deux pilotes qui sont en course à 1500 km de là, à Rome. Les ingénieurs ont le regard fixé sur leurs nombreux écrans, relevés chronométriques, classements, charges restantes des batteries, tout est décortiqué et transmis à leurs collègues qui, dans le feu de l'action à Rome, n'ont pas le temps de tout gérer. Au passage, on regarde ce que font les concurrents. Thomas Gomis est le directeur technique de DS Performance.
Évidemment, nous on fait de l'espionnage, mais de l'espionnage autorisé, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infos qui arrivent via le flux télé, le flux radio, on les analyse aussi pour renseigner au maximum nos deux pilotes, pour modifier leur stratégie.
À côté de cette salle de contrôle à distance se trouve également à l'abri des regards le simulateur où Arthur Lehoucq prépare les courses.
On va dire que c'est comme quand vous passez le permis de conduire. Vous avez un moniteur au début qui vous aide, etc. Moi, je suis entre guillemets le moniteur qui va leur donner les derniers petits conseils pour qu'ils aillent vraiment vite.
Et hier, c'est le Français Jean-Éric Vergne qui a offert à l'écurie de Formule électrique DS Tichita son premier succès de la saison.
Axel May du service des sports d'Europe 1. La météo, Valérie Dermont, et c'est tout simple, hein, le ciel est très gris partout aujourd'hui.
Effectivement, les pluies sont assez copieuses entre les Ardennes et le Limousin, toujours. À l'arrière, le soleil recommence à faire quelques rares apparitions, même si vous connaissez toujours quelques averses qui se développent cet après-midi le long de la Manche et le ciel qui vire à l'orage carrément sur le Finistère. Dans le sud-est, le ciel reste couvert avec des pluies tout au long de la journée. Hein. Il pleut depuis ce matin et là aussi, des orages s'invitent sur les Alpes-Maritimes. En cours d'après-midi, la perturbation donc d'hier et de ce matin se décale vers l'Auvergne, vers Rhône-Alpes, vers la Bourgogne, vers la Franche-Comté. Les cumuls sont tout de même moins importants qu'hier sur les Cévennes. Rien à voir, mais partout ailleurs, il pleut plus ou moins. Vous retrouvez quelques éclaircies tout de même sur l'ouest du bassin parisien. Les maximales baissent, comme prévu, affichant des valeurs entre 8 à Charleville-Mézières ou encore Saint-Brieuc et 19 degrés à Grenoble, Strasbourg et Lyon, en passant par 10 degrés à Paris.
Merci Valérie Dermont et on attend donc l'amélioration la semaine prochaine.
Rémi Bossaro.
Dans un instant, je reçois Anastasia Chapochkina, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de la Russie. Nous allons parler avec elle de Vladimir Poutine, qui pourrait rester au pouvoir en Russie plus longtemps encore que Staline.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Rémi Bossaron.
Bonjour Anastasia Chapochkina.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste de la Russie, et nous allons parler avec vous de Vladimir Poutine, président de la Russie, président pratiquement à vie, hein, puisqu'on sait depuis cette semaine, il a signé lui-même la loi qu'il pourra finalement briguer deux mandats supplémentaires, ce qui l'emmène au pouvoir jusqu'en 2036, sachant qu'il est soit comme Premier ministre, soit comme président au pouvoir depuis août 99. D'abord, posons les choses simplement, est-ce qu'il y a le moindre doute sur le fait que Vladimir Poutine obtiendra effectivement ces deux mandats supplémentaires ?
Il n'y a vraiment aucun doute sur ce fait. Déjà parce que cette loi est devenue possible suite au changement constitutionnel de la constitution de 1993 russe, qui a effectivement limité le terme de présidence, de la présidence à deux. Ce changement a été fait donc l'été dernier lors d'une réforme constitutionnelle qui a été proposée par Vladimir Poutine lui-même. Et le résultat, c'est qu'il n'y a plus de limite sur les présidences. Ensuite, les lois fédérales qui vont suivre, c'est juste une formalité, on peut dire. L'essentiel était fait, donc la loi principale de le pays a été changée.
Oui, donc il faut ensuite que Vladimir Poutine soit élu à chaque fois qu'il obtienne ses mandats. Il n'y a pas tellement de suspense là aussi. Si l'on regarde également la situation des opposants politiques actuellement en Russie, ils sont pratiquement réduits au silence. On pense évidemment, c'est l'actualité la plus récente, à Alexei Navalny. On sait qu'il est en colonie pénitentiaire, qu'il dit être victime de torture, qu'il est en grève de la faim, que sa situation personnelle se dégrade de jour en jour. Nous savons ça. Est-ce que la population russe le sait ? Est-ce qu'elle est sensible au sort d'Alexei Navalny ?
Bien sûr, la population russe le sait, mais l'image et la réputation d'Alexei Navalny en Russie n'est pas du tout le même que à l'Occident. Et d'un côté, la campagne donc d'internet d'Alexei Navalny, en vue aussi de la public d'internet qui change en Russie aussi, il y a de plus en plus des gens qui piochent leurs informations, qui apprennent de nouvelles par internet. Donc grâce à ce phénomène technologique, donc la public des supporters d'Alexei Navalny, elle a élargi depuis des années. mais elle n'atteint pas, on peut dire, la masse critique. C'est pas la majorité de la population russe. D'un côté, parce que il y a des gens qui sont indifférents à la politique, il y a beaucoup de gens qui sont indifférents à la politique. De l'autre côté, parce que le gouvernement a mené soigneusement une campagne informatique parallèle en utilisant des médias traditionnels, notamment la télévision, pour pourrir l'image d'Alexei Navalny, pour lui présenter en tant qu'escroc, etc. Ça, ça a beaucoup marché aussi avec une large population. En parallèle, Alexei Navalny a réussi à instruire toute une base, une énorme base de dizaines de milliers de personnes qui lui soutiennent directement dans plusieurs régions à travers de la Russie et qui ont qui sont aussi à l'issue des différentes stratégies des élections. Justement, pour adresser votre question, comment à chaque type des élections, pas seulement des élections présidentielles, mais des élections locales, des élections régionales, comment est-ce que le pouvoir, le gouvernement pourra retenir le pouvoir. Effectivement, toute la campagne contre Alexei Navalny est dirigée contre cette stratégie de son équipe, y compris de son équipe, qui s'est démontrée capable de fonctionner aussi avec lui ou en parallèle avec tous ces emprisonnements qu'il a déjà eu avant, les arrestations, et qui a mené toute une stratégie de la vote intelligente qui a effectivement quand même endommagé les résultats de la partie Russie unie, la partie dominante du gouvernement.
Alors on comprend que c'est un long travail et difficile pour l'instant de l'opposition de se faire entendre et d'éventuellement menacer dans les urnes Vladimir Poutine. Si on s'intéresse à l'épidémie de Covid-19, dont on peut se dire extérieurement qu'elle pourrait aussi fragiliser Vladimir Poutine, à l'avenir, si on regarde les chiffres, le bilan officiel était de 90 000 morts en Russie, et puis les statistiques sont apparues, et les statistiques officielles montrent qu'il y a en fait sans doute 300 000 morts de plus. Mmh. Ça paraît colossal, là aussi, est-ce que la population peut être sensible à ça et peut-être en vouloir à Vladimir Poutine pour sa gestion de l'épidémie?
Oui, bien sûr. Donc l'épidémie, c'est un grand, ça a beaucoup frappé donc la popularité de Vladimir Poutine, ensuite aussi la confiance en gouvernement. Et le gouvernement a réagi avec les mesures beaucoup plus strictes et de nouvelles lois contre les manifestations, contre l'opposition. Et maintenant aussi, il y a tout un nouvel chapitre de la guerre contre l'opposition qui se transfère dans l'espace numérique. Donc il y avait des tentatives de diminuer la présence de le fonctionnement de Twitter, qui ensuite, pour l'instant, ils ont renoncé à ça, pour aussi contrôler des réseaux sociaux, etc. Donc tout ça, c'est fait en préparation pour, bien sûr, les manifestations, même pas pour contre Navalny, mais surtout contre les conditions économiques et sociales qui deviennent de plus en plus dures. Comme les Russes disent, donc la bataille entre le télé qui projette une image heureuse et ensuite le frigo qui est vide, dans cette bataille-là, le frigo vraiment commence à gagner. Et donc, le gouvernement, d'un côté, il introduit les lois qui lui permettront de reprendre le contrôle sur l'espace informatique, qui est de plus en plus digitalisé. De l'autre côté, le gouvernement aussi démontre, et a démontré depuis l'été notamment, où beaucoup de protestations de différentes natures ont eu lieu en Russie, en travers de la Russie, de Moscou jusqu'à Khabarovsk, qu'il est prêt, le gouvernement, à démontrer la force face aux manifestations. Et le leçon de la Biélorussie, donc l'État voisin, et toutes les débarques en force de la police en Biélorussie, ça a été aussi une leçon très importante pour les Russes, le gouvernement russe qui a observé de près tout ce qui se passait en Biélorussie. Est-ce que ça va passer? Et donc, en Biélorussie, oui, ça passait. C'est possible de faire ça à sa population. Les Russes ont bien géré cette leçon et on a vu le niveau de violence policière pendant l'hiver notamment, très, très, très important, beaucoup plus important, et les méthodes nouvelles de violence plus importantes qu'on a vues avant.
Donc la logique aujourd'hui de Vladimir Poutine pour rester au pouvoir, si les campagnes de désinformation ou de propagande ne suffisent pas, il se dit, au pire, je peux passer par la force.
Effectivement. La force et la manipulation de l'espace informatique en préparation des élections et ensuite les manipulations des élections, les manipulations électorales qui sont traditionnelles en Russie.
On imagine que dans cette campagne d'information pour lutter, comme vous le disiez, face à ce phénomène de frigo vide que les Russes ressentent de plus en plus, on imagine que Vladimir Poutine met en avant des réussites de son très très long mandat à la tête de la Russie. Qu'est-ce qu'il met en avant pour plaire aux Russes et montrer qu'il a des réussites à son programme?
Les réussites aujourd'hui à mettre en avant, ça devient de plus en plus compliqué. Donc ce qui fait le gouvernement face aux crises financières, crises économiques, comme l'économie c'est pas vraiment le point fort de Vladimir Poutine, c'est plutôt se tourner vers les affaires étrangères. Oui. Et donc démontrer plutôt le bras dur et la gloire de la Russie qui se lève de ses genoux et toute cette rhétorique là pour justement remplacer ce qui n'est pas au rendez-vous, donc les la croissance économique ni la gestion réussite de la crise. Face à ça, donc qu'est-ce que le gouvernement fait? Ça c'est une recette qui a très bien marché en Russie dès l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 1998, quand il n'était pas encore connu comme un homme dur, mais il est devenu, il a bâti cette image en travers de la deuxième guerre de Tchétchénie qu'il a commencé. Ensuite en 2008, quand aussi les sondages ont commencé à baisser pour le gouvernement, et là grâce à une courte guerre victorieuse contre la Géorgie, ça remontait. En 2014 aussi, l'annexation du Crimée a eu ça comme résultat, malgré des manifestations contre le gouvernement qui étaient assez massives en 2012. Et en 2014, les sondages sont revenus. Donc cet effort-là de démontrer la force, ce qu'on observe aujourd'hui avec 40 000 personnels militaires estimés massés aux frontières, tout au long de la frontière avec l'Ukraine, c'est plus ou moins les réactions aux affaires internes de la Russie, parce que toute la politique étrangère de la Russie est aussi une réponse d'abord et au premier lieu à toutes les difficultés et toutes les questions qui existent dans la politique domestique.
Eh bien, merci beaucoup Anastasia Chapochkina, maître de conférence à Sciences Po. On comprend effectivement que ces troupes qui se massent à la frontière avec l'Ukraine, c'est aussi une réponse à cette popularité en berne aujourd'hui pour Vladimir Poutine dans son pays en vue de la prochaine élection présidentielle. Dans un instant, les carnets du monde avec cette semaine Jean-Sébastien Soldani. Quel programme aujourd'hui, Jean-Sébastien ?
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Cette semaine, dans les carnets, nous irons aux portes de la Birmanie, à la frontière avec la Thaïlande, là où s'organise la résistance à la junte.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldani, on écoute ça évidemment avec attention.